Salut à toutes et tous, c'est l'émission lundi matin et vous êtes bien sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste. A tout de suite donc pour l'émission donc lundi matin comme d'habitude, hein, à savoir dans quelques instants présentation du thème du jour, la rubrique agenda et à partir de 11h30 développement donc de ce thème. On écoute tout de suite Frédéric qui sera, mais on y reviendra lors de l'agenda, qui sera parmi nous, c'est-à-dire à Publico vendredi pour un concert. On l'écoute donc tout de suite pour l'interprétation donc d'un texte de Gaston Coutet. À tout de suite.
Ils étaient deux amis, l'un natif de la Beauce, l'autre de la Somme. L'un était fils de meunier et adorait les revendications sociales, les bords de Loire, les vins de Tavers et de Beaugency. C'était Gaston Coutet. L'autre aimait surtout la nuit dans les ports, les paysages urbains, les ruelles mal famées, et le rugby à 15. C'était moi, Macorlan.
Le gars était un tâcheron, n'ayant que ses bras pour fortune. La fille, celle du patron, un gros fermier de la commune. Ils s'aimaient tous deux tant et plus, ils s'aimaient tous deux tant et plus. Écoutez ça, les bonnes gens, petits de cœur et gros d'argent. Écoutez ça, ils s'aimaient tant et plus, l'amour ça se fout des écus. Lorsqu'ils s'en revenaient du bal, par les minuits clairs d'assemblée, au risque d'un procès verbal, ils faisaient de larges roulées. Au plein des blés profonds et droits, au plein des blés profonds et droits. Écoutez ça, les bonnes gens, qu'un bicorne rend grelottant. Écoutez ça, les blés profonds et droits, l'amour ça se fout de la loi. Un jour s'en furent tous deux prier, elle son père et lui son maître, de les laisser se marier, mais le vieux les envoya paître. Alors ils prirent la clé des champs, alors ils prirent la clé des champs. Écoutez ça, les bonnes gens qui respectaient les cheveux blancs. Écoutez ça, ils prirent la clé des champs, l'amour ça se fout des parents. S'en furent dans quelques cités, loin des labours et des jachères. Passèrent ensemble un été, puis tout d'un coup ils se fâchèrent. Et se quittèrent bêtement, et se quittèrent bêtement. Écoutez ça, les bonnes gens, mariés cocus et puis contents. Écoutez ça, ils se quittèrent bêtement. L'amour, ça se fout des amants. L'amour, ça se fout des amants.
donc Frédéric, qu'on vient d'écouter à l'instant, tout à l'heure à 11h30, il sera question des chefs, et ben oui, des chefs, il y en a partout, ils nous pourrissent la vie, et à partir de cela, on a quelques idées à défendre ce matin avec Nicolas et Sylvie notamment. On écoutait Frédéric, le temps de me préparer pour la rubrique Agenda et vous proposer quelques rendez-vous. On écoute Lila Tamazit Trio qui interprète Colette Mani et on se retrouve dans quelques instants.
On garde son sang-froid. Aïe. Oh, pardon. Je vous ai écrasé le gros orteil. Je suis des brigades d'intervention. Répression, répression, répression. Vous êtes qu'un passant. Mais maintenant, pour les manifestants, les grenades, on les tire à bout portant. Répression, répression, répression. On a supprimé les pavés. On a bitumé la chaussée. Pour faciliter la circulation. Les trottoirs, c'est pour nous. La rue, elle est à nous. Vos papiers. Si vous avez les cheveux longs ou un faciès d'une drôle d'espèce. Mais si les cheveux vous les portez courts, on vous mettra pas dans les fours. Répression, répression, répression. Douce majorité silencieuse. Pas d'opinion, pas de délit d'opinion, pas de répression, pas de répression. À votre avis, pourquoi on met pas Jean-Paul Sartre en prison? Pas de répression. C'est pas un homme convenable, a refusé le prix Nobel, respecte pas les institutions. Et qu'est-ce qu'il fout sur un tonneau chez Renault? Chacun à son poste. Nous, c'est les trottoirs. Répression, répression, répression. Liberté de la presse, quelle ivresse! On couche avec des princesses par procuration. Affiches dans le métro et sur les grands boulevards font rage de fesses et seins roses bonbons. Mais attention, attention, faut pas faire l'idiot national ou international. Faut pas vendre des journaux, rencontrer des marchés. Faut laisser circuler la majorité. Clac ! Les vieillards sont atterrés par les jeux questions posées par leur canard préféré. Salut les cops. Manger de la soupe fait grandir. Vrai ou faux? Bla 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 bla. Blac! Coup de grisou chez les mineurs. Ils sont en danger. Arakiri rikira, arakiri rikira, arakiri kirira. qui rira le dernier. Ici on est libre, on n'est pas chez les colonels. On peut encore avoir un parterre de fleurs rouges devant sa maison ou s'y flotter n'importe quelle connerie de la télévision. On nous mettra pas en prison. Ah mais non, attention, où va-t-on? C'est vrai, faut faire le procès de la vitesse pour bombarder le Nord-Vietnam en deux temps trois mouvements. Mais pour les secours au Pakistan, on a tout le temps, loi contre la drogue. On peut venir vous trouver dans votre lit de jour comme de nuit. Vous êtes présumé coupable par le juge d'instruction. Suspicion, répression, attention, où va-t-on? Où va-t-on? Et si ça continue comme ça, un jour, on verra peut-être les magistrats et les lycéens cul à cul dans la rue. Répression, suspicion, attention, où va-t-on? Où va-t-on? Jusqu'où ira-t-on? Ira-t-on? Ira-t-on?
Lundi matin, l'agenda, quelques rendez-vous donc à vous proposer. Et tout d'abord, le traditionnel rappel nécessaire pour soutenir la station. Vous invitez à vous rendre sur le site radio-libertaire.org à la rubrique « Nous soutenir » si vous pouvez filer un petit coup de main financier. Voilà, à la station. Des rendez-vous maintenant à vous proposer. Un rendez-vous le 17 mai. Le 17 mai, ça sera donc à la BAM, hein, c'est-à-dire la Bibliothèque Associative de Malakoff, à propos d'un livre paru aux éditions Syleps, Les 100 ans de la Révolution prolétarienne. La Révolution prolétarienne, c'est donc une revue qui avait été créé il y a un siècle, hein, puisqu'on fête les 100 ans, par Pierre Menat, donc une figure importante du syndicalisme, alors en France. Revue qui est toujours diffusée, hein, et qui existe toujours, et qu'on peut trouver d'ailleurs à la librairie Publico. Là, en l'occurrence, ça sera à la Bibliothèque Associative de Malakoff, le 17 mai. C'est un samedi, ça sera donc à 19h30. Donc discussion, présentation donc autour de la revue et de ce livre paru aux éditions Syleps. Autre débat, comment résister à la gentrification? Ça sera le jeudi 15 mai à 19h. C'est proposé par le syndicat unifié du bâtiment de la CNT avec Anne Clerval qui sera invitée pour en débattre. Co-auteur Anne Clerval d'un livre, Les naufragés du Grand Paris Express, un livre sorti récemment aux éditions Zone. Donc comment résister à la gentrification, comment lutter, quels outils forger et quelles alternatives, voilà, c'est ce qui sera donc en débat ce jeudi 15 mai à 19h, et ça sera au 63 rue Buzinval, au centre Paris Anime, Ken Saro Viva. Donc dans le 20e arrondissement de Paris, puisque les locaux de la CNT sont en travaux. Un petit tour maintenant du côté de la librairie Publico. On est donc au 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement de Paris. Donc en ouverture d'émission, on a écouté Frédéric, Et donc Frédéric sera le vendredi 16 mai à 19h à la librairie Publico pour un concert proposé par Mots et Musique, ce qui nous fera l'occasion en plus à toutes et tous de revoir Patrick Kipper de l'association Mots et Musique. Donc vendredi 16, 19h, Le Voyage Suspendu, donc spectacle de peinture parlante de Frédéric Forjard. Frédéric, on la connaît plus comme Frédéric, accompagné par Didier Gouège. Et donc un spectacle vendredi 16 mai, donc 19h. Le Voyage Suspendu, spectacle de peinture parlante. Voilà, nouveau spectacle, donc je ne peux pas vous en parler, on ne l'a pas vu. Donc on découvrira ce nouveau spectacle donc, de Frédéric. Autre rendez-vous, toujours au 145 rue Amelot. Ce sera le dimanche 18 mai à 16h. Ce sera Miguel Pujadot qui va chanter Brassens. Miguel Pujadot chante Brassens. Canta Brassens, parce que ça sera en catalan. Et donc le 18 mai à 16h à la librairie Publico. Autre rendez-vous, toujours au 145 rue Amelot. 11e arrondissement de Paris, vendredi 23 mai, et non, mercredi 21 mai, on va commencer par le 21 mai, 20h, ça sera le ciné-commune du groupe Commune de Paris de la Fédération Anarchiste, projection d'un documentaire, Le Village contre la multinationale, l'une de ces nombreuses résistances qui ont lieu un petit peu partout dans le monde, où l'on voit des résistances locales contre des grands projets, des implantations de multinationales ou autres. Là, c'est un documentaire de Thomas Lafarge qui sera proposé, adapté du livre « Le village contre la multinationale » d'Arnaud Zweck. Un livre qui était paru donc il y a 2 ans. Donc le réalisateur Thomas Lafarge sera présent donc pour cette soirée. Et ensuite, j'avais sauté une date, le 23 mai, le procès Papon, donc, et c'est Jean-Jacques Gandini qui sera parmi nous pour ce livre donc, qu'il a écrit, qui donc, ben, s'intéresse au procès Papon. Il comparaissait, vous en souvenez, c'était en 97, il comparaissait devant la cour d'assises de Bordeaux, inculpé de complicité de crimes contre l'humanité. Il avait participé à l'organisation de plusieurs convois de personnes d'origine juive arrêtées et transférées dans les wagons à bestiaux via Drancy, direction Auschwitz, où la plupart ont été exterminés dès leur arrivée. Donc un procès fleuve qui avait duré pendant 6 mois, qui est donc celui d'un fonctionnaire compétent et zélé, convaincu d'avoir agi au nom de l'État en des circonstances exceptionnelles. Donc pour débattre de ce livre, eh bien Jean-Jacques Gandini sera parmi nous le vendredi 23 mai à 19h. Autre rendez-vous, toujours à la librairie Publico, la librairie du monde libertaire, ce sera du 24 mai au 21 juin, l'exposition Happy Finger Pochoir, avec un vernissage donc le 24 mai à 16h. Voilà donc pour la librairie Publico au 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement de Paris. On va sortir un petit peu de notre région parisienne et je vais vous signaler que le 17 mai, ce sera donc à Rouen, à la MJC Rouen Rive Gauche, place de Hanovre, à l'initiative du groupe de la Fédération Anarchiste de Rouen, donc un salon du livre libertaire, donc le samedi 17 mai à 14h30, avec des débats sur l'antifascisme, sur l'antimilitarisme et toute une série d'éditeurs libertaires aussi, puisque c'est un salon du livre, bien sûr, qui seront présents. Et puis également à Rennes, le 17 mai également, à partir de 14h30, s'informer, débattre, s'organiser et lutter contre le nucléaire, le 17, donc à 14h30, à la Maison des Associations, 6 cours des Alliés à Rennes, avec l'info tour anti-nucléaire Bretagne-Normandie, la Grange de Montabeau, le collectif anti-nucléaire, mais pas que, Piscine Nucléaire Stop, le réseau Macno de la FA, et le tout, évidemment, avec le groupe La Sociale. Voilà. Pour les quelques rendez-vous que je voulais vous proposer, n'hésitez pas à en retrouver d'autres, nombreux, sur les sites Paris 8 Info ou encore l'agenda militant indépendant. Il est 11h26, on va bientôt rentrer avec Nicolas et Sylvie dans le sujet du jour. Je voulais juste aussi, concernant la vie de la station, vous dire que j'ai appris le décès de Jean. Alors Jean, pour les auditeurs qui nous écoutaient déjà il y a longtemps, je pense que si je vous cite l'émission Arbrousse-Poil, ça va vous dire quelque chose, émission qui avait lieu dans les années 90, hein, plus précisément entre 95 et 99, il y avait Jean et Floréal pour cette émission Arbrousse-Poil. Floréal m'a appris que Jean était décédé récemment. Et que, eh bien, il nous reste de Jean un petit livre, malgré tout, qui était tiré d'ailleurs de cette expérience radiophonique Arbrousse-Poil, qui s'intitule « L'ordre mon cul, la liberté m'habite », signé de son nom, Jean-Victor Verlinde, qui avait été publié donc à l'Esprit Frappeur, et qui est donc toujours disponible. Il est bientôt 11h30, on va revenir à la musique et s'installer nous pour rentrer donc dans ce débat qu'on vous propose aujourd'hui avec Oberkampf. Oberkampf, c'est un groupe que j'écoutais beaucoup, hein, vraiment j'aimais beaucoup Oberkampf. Et là on va écouter un extrait de concert, c'est donc au Bataclan, c'était au Bataclan et c'était en 2001. Oberkampf au Bataclan. We'll be right back. Voilà, donc Couleur sur Paris, Oberkampf, et on est sur Radio Libertaire, et dans l'émission lundi matin.
D'abord, je voudrais qu'on dise un petit mot sur Henrik, qui est décédé, donc il est décédé récemment, je ne me rappelle pas la date exacte. Donc, ça faisait combien de temps, 10 ans, 15 ans, qu'il était à Radio Libertaire ? Laurent,
écoute, franchement, je sais pas. Enfin, j'ai l'impression de le connaître depuis très très longtemps.
Moi aussi, je me sens de le connaître depuis longtemps. On l'a surtout connu parce que, des fois, on le croisait à la radio, hein, mais on l'a surtout connu parce que il participait à des débats, puisqu'on a fait de nombreux débats. Sur le sujet de l'homophobie, donc par exemple, on a projeté un film sur le Front homosexuel d'Action révolutionnaire, le FHR, et aussi on a projeté au moins deux fois, si c'est pas trois, le film Pride, qui montre bien d'ailleurs le fait qu'il est allé, qu'il est venu chaque fois voir la projection, que lutter contre l'homophobie signifie pas que tu t'intéresses pas du tout à l'oppression à la lutte des classes et à l'oppression de classe, quoi. Puisque le sujet du film, c'est justement le fait que des ouvriers, des mineurs, en grève soit solide, enfin, et vice versa, c'est d'abord les homosexuels de Londres qui sont solidaires avec eux et les mineurs leur rendent cette solidarité lors d'une manifestation. Donc ils venaient systématiquement quand on faisait un débat sur le sujet. Et d'ailleurs, je me rappelle que même la dernière fois, il avait un peu ricané sur le mode au groupe d'Ivry, vous êtes un peu obsédé sur l'homophobie. Mais je l'ai dit mercredi lors de l'émission L'Entonnoir, je le redis quand même, c'est que il avait dit un truc, entre autres, hein, qui m'avait marqué. C'était que quand il était venu à un débat justement sur l'homophobie, et il avait parlé de la manif pour tous en disant que, même si bien sûr c'était quelque chose de très perturbant de voir cette foule hostile aux homosexuels, que ça avait au moins ce bénéfice, qu'il en avait marre, que même y compris dans les milieux libertaires, on prétende que l'homophobie n'existait plus. Et que c'était quand même un peu un camouflet pour tous ceux qui s'imaginaient ça. Par ailleurs, donc, je voulais dire aussi que c'est quelqu'un, j'ai des anecdotes précises pour le démontrer, mais qui avait, par rapport à pas mal de gens, y compris dans nos milieux, qui n'ont pas beaucoup d'éthique sur des questions comme celle-là, que c'était quelqu'un de très intransigeant sur l'aspect éthique. C'est-à-dire que, par exemple, ça aurait vraiment pas été son genre de passer la chanson Petite de Léo Ferré ou des chansons pédophiles de Henri Tachant. Vraiment, il était très à cheval là-dessus. Et le fait est que je lui avais montré, la dernière fois qu'il était venu à un débat, je lui avais montré un journal qui est un peu une curiosité. C'est un truc qui date des années 70, qui s'appelle Nous les Hommes, journal 100% viril, et qui date de l'époque où c'était interdit de faire des journaux pour homosexuels. Donc du coup, dans le journal, ils inventaient tous les prétextes pour essayer de montrer des hommes à poil, quoi. Et donc le truc, c'est que il avait vu qu'il y avait un article où on voyait comme prétexte, doit-on se montrer nu devant les enfants, et on voyait un homme, enfin on voyait le dos, hein, mais enfin on voyait un homme nu devant une petite fille qui était dans une baignoire, et il était très choqué. Il a dit, ça veut dire que l'homosexualité, c'est choquant, et pas la pédophilie. Il était vraiment révolté par l'idée de la pédophilie, quoi. Et par rapport au sexisme, j'ai aussi une autre anecdote. C'est qu'à un moment donné, il y a eu une émission sur Radio Libertaire dont il devait faire la technique, et c'était la femme qui devait animer l'émission, enfin qui a animé l'émission. Tout ce qu'elle avait trouvé invité, c'est une espèce de vieux macho qui expliquait comme ça que de toute façon, la seule chose qui était intéressante chez les femmes, c'était de les sauter, quoi, de les baiser, et que tant qu'elles étaient encore consommables, je cite, hein, Hein. Et que des trucs comme ça, quoi. Mais vraiment, le type répugnant. Et déjà, tu voyais pas beaucoup l'intérêt de cette émission, mais surtout, c'était vraiment un gros macho. Et donc, Henrik avait dit, moi, je veux pas faire la technique d'une émission pareille. Donc, vous débrouillez pour trouver quelqu'un d'autre pour faire la technique. L'idée du sexisme le révoltait sincèrement, quoi. C'est pas quelqu'un qui aurait pu supporter l'idée qu'on banalise le viol, par exemple. C'était vraiment quelqu'un qui avait beaucoup d'éthique. Et ça se voyait, parce que c'était pas des prises de position abstraites. C'est quelque chose dans quoi il s'engageait réellement. Et puis sinon, c'est quelqu'un qui avait très bon goût, car c'est l'unique personne de mon entourage à qui j'ai montré des vidéos de mon idole Théo Lavabo et qui a trouvé que c'était bien. Tous les autres trouvent que c'est de la soupe, ce qui est vrai. Mais bon, comme c'est un chanteur qui est très gay dans tous les sens du terme et qu'il est plutôt avenant, ben donc je pense que c'est plutôt ça, plutôt que la qualité musicale qui peut-être l'avait intéressé. Mais voilà, non, c'était un petit clin d'œil, comme ça.
Ben,
mais
surtout,
je suis très triste qu'il... ça se passait très bien avec lui. On l'a vu quand même maintes fois, y compris dans les couloirs de la radio. Et franchement, ça se passait bien. C'était vraiment quelqu'un de bien. Je suis vraiment triste quand j'ai appris mercredi qu'il était décédé.
Ben, ce qui caractérisait beaucoup Henrik, effectivement, tu l'as souligné, Sylvie, c'était ce souci, cette exigence éthique qui le caractérisait vraiment. Et rien qu'en disant ça, on dit tout simplement qu'Henrik était quelqu'un de bien. Et en résumé, je pense que le plus beau compliment qu'on puisse faire à quelqu'un, c'est de lui dire « t'es quelqu'un de bien ». Et il était quelqu'un de bien, tout simplement. Et il y avait son émission aussi. Je sais pas, toi, je crois que tu l'écoutais souvent, Nicolas, Radio X, le vendredi soir.
Ben, ça m'est arrivé de l'écouter, oui. C'est une émission un petit peu à son image, avec un peu assez variée. Qui pouvait durer d'une durée aussi variable. Vous pouvez aborder des sujets sérieux, mais aussi plaisanter, et puis passer beaucoup de musique. Il avait quand même des goûts très larges, une culture musicale importante, et il aimait beaucoup. Et puis c'est quelqu'un qui aimait beaucoup la radio en général, enfin le média radio lui-même. Et donc il faisait aussi beaucoup de choses en plus de son émission, Radio Libertaire. Il faisait beaucoup de techniques et autres, et même il faisait aussi passer beaucoup de temps à faire des montages pour après son émission, au lieu de passer la bande sans fin, passer des choses. Donc c'était, moi je trouvais que on mettait ça le vendredi soir, il y avait une ambiance quoi dans son émission, je trouve que ça crée une ambiance comme ça.
Voilà, donc...
Alors, est-ce que vous voulez rentrer tout de suite dans le sujet?
Je sais pas, on peut peut-être passer une petite chanson entre
deux. Une petite chanson, petite chanson...
T'as pas du courge des fois?
Alors,
Si, pareil qu'il y a courge. Qu'est-ce que t'as que de courge? Courge, c'est le groupe de Matt Conture.
Il y a un morceau, c'est Discothérapie. Qu'on va écouter, hein, tout simplement, et donc se retrouver dans quelques instants.
Yeah.
C'est sur l'idée générale que c'est vachement dur de que la gestion serait une compétence particulière, que ça demanderait des compétences particulières et surtout que ce serait quelque chose qui prendrait un temps incroyable, que tout le monde peut pas le faire parce que déjà c'est dur et puis ça prend du temps et d'ailleurs pour l'autogestion faut s'entraîner, c'est vachement dur et tout, et c'est très important que les gens croient ça, qu'ils croient que l'autogestion ça se fait pas comme ça, faut s'entraîner, c'est très dur, et que pour ceux qui sont des patrons, les hommes politiques ou même les chefaillons dans les organisations ou les collectifs, ben c'est très très difficile et ça prend beaucoup de temps. Et quand tu veux tenir éloigné la concurrence, on va dire, et surtout les gens qui pourraient se dire à un moment donné, mais en fait, à quoi vous servez les chefaillons, à quoi vous servez les coordonnateurs, les gestionnaires comme ça, vous servez absolument à rien parce que c'est pas difficile. Ben c'est ça, il faut, c'est vraiment quelque chose d'important de faire croire ça. Et à tous les niveaux, enfin dans toutes les structures, on trouve des gens qui sont des chefaillons dans l'âme et qui essaient de faire croire qu'ils passent un temps fou à des choses qui prennent pas tant de temps et qui sont pas aussi difficiles qu'ils cherchent à le faire croire. Il y a des choses qui se relèvent de compétences. Ben par exemple, tu te dis savoir faire un meuble ou savoir réparer un robinet ou enfin il y a faire des opérations d'appendicite, ça demande d'apprendre à le faire. Mais en revanche, gérer quoi que ce soit, c'est pas difficile, c'est vivre sans chef, je le dis toujours, mais je le répète, c'est aussi compliqué que de vivre sans pou, et qu'il y a absolument aucune raison de croire que c'est si difficile que ça, la gestion, l'autogestion. Ceux qui gèrent, en réalité, ils te bourrent le mou en prétendant qu'ils bossent comme des diables. Premièrement, ils se font entourer, et ça c'est vrai à toutes les échelles. J'ai vu ça dans des organisations, j'ai vu ça dans des collectifs, et bien entendu, c'est le cas pour ce qui est des politiciens et des patrons. Mais j'ai entendu aussi parallèlement, bah oui, mais ce qui fait le patron, moi je saurais pas. Enfin, on peut faire le catalogue de tout ce qui fait, tout ce qu'on a comme préjugé, comme idée reçue sur ce qu'est la difficulté de gérer, et qui fait que tu vas accepter l'idée que quelqu'un te commande finalement. Non ? Qu'est-ce qu'on pense Tu le vois pas comme ça, que faut pas regarder trop près ce que font pour de vrai les patrons, les chefaillons, les chefaillons en tout genre. Faut pas regarder trop près dans quelle mesure ils bossent vraiment tant que ça.
Bah, faut parler. Oui, le fait qu'il serait déjà, qu'il aurait des qualités vraiment surhumaines, qui justifie d'ailleurs que nous autres, les humains, simples humains, pourront pas faire ce qu'ils font et qu'on en a et qu'on aurait besoin d'eux. Donc, ils ont des. Non seulement ils travaillent énormément, même enfin. À entendre certains, ils travaillent jour et nuit, même encore plus. Hein. Et puis, ils ont des capacités aussi hors normes.
Déjà, ils ont fait des études pour apprendre à gérer, souvent. Ils ont fait des grandes. Pas pour ce qui est de. En ce qui concerne le gouvernement, tu es censé sortir d'une quelconque école qui t'apprend à gérer, en fait. À gérer les, gens, à gérer le pays, etc. Enfin, je sais plus, enfin, des trucs genre polytechnique, des trucs comme
ouais,
ça.
L'ENA, tout ça. Bah, oui, ils apprennent l'ENA, à gérer, voilà. Oui, à diriger, oui, c'est ça. Bah, bah, après, ils peuvent gérer n'importe quoi, mais les banques, ils gèrent. Donc, on les met à des postes, ils passent d'un poste à l'autre, une banque, un ministère, un autre ministère. Du jour au lendemain, ils deviennent spécialistes d'un sujet. Et puis, voilà, effectivement, quand on regarde, bah, bien souvent, déjà, ils n'ont pas des qualités particulières, hein, voire ils sont pires que d'autres, mais, éventuellement. Mais, et puis le travail, c'est pareil. Bon, c'est de la blague, quoi. Hein, le fait qu'ils travailleraient énormément. Il y avait le patron de Michelin, il racontait que chez lui, il faisait la vaisselle, carrément. Tu vois, c'est jusque-là, bon. Ils ont des tas de gens à leur service. Enfin, c'est pour tout.
Bah, et d'ailleurs, on voit pas très bien ce qui leur prendrait tant de temps.
Pas seulement pour le boulot, je veux dire, même pour prendre leur rendez-vous chez le dentiste, c'est des gens qui font ça pour eux.
Bah, oui, bien sûr.
Ils font absolument rien.
Oui, puis c'est général, quoi. Mais le truc, je pense que le corollaire de ça, c'est aussi, pour nous qui sommes anarchistes, c'est de te faire croire aussi que puisque la gestion, c'est difficile, l'autogestion, ça va être trop dur. Il faudra des gens pour te diriger, pour te coordonner, pour décider comment qu'on fait ci, comment qu'on fait ça. Mais je pense qu'il y a quand même aussi un corollaire à cette angoisse qu'on aurait de se passer des chefs. C'est que il faudrait que ce soit la bah tu vois je cite enfin encore une fois si on doit faire une émission sur Élisée Reclus je vais vous dire ça sera pas sa gloire hein. Bon c'est pas il a pas l'air d'un mauvais bougre mais enfin franchement à part que c'était un moulin à slogan il a pas ce qu'il disait c'était quand même plus que discutable c'est quand même un peu pimpin on va dire hein. C'est pas méchant mais c'est quand même très cucu je veux dire quand tu dis l'anarchie c'est l'ordre moins le pouvoir mais c'est pas l'ordre moi je sais pas enfin si toi ça t'excite l'idée de l'ordre mais en plus c'est une vue de l'esprit c'est il voyait l'équivalent du prince charmant ou de la princesse réponse en matière de société, mais c'est pas comme ça. Je veux dire, il dit aussi, je cite, qu'il faudrait que ce soit la perfection idéale. Évidemment, si c'est ça que tu te mets comme objectif, tu te dis, mais on va jamais y arriver comme ça et tout, il faut quelqu'un de super performant pour cornaquer tout ça, quoi. D'ailleurs, c'est pas étonnant que c'était quelqu'un qu'on pensait pour l'idée d'éduquer les autres. Parce que faut se la péter un peu quand même pour imaginer qu'on va faire un truc pareil. Or, en réalité, quand on était amené à prendre des initiatives en véritable autogestion, c'est-à-dire sans personne qui te dit toi tu fais ci, toi tu fais ça, ben tu te rends compte que oui, il y a un côté un peu approximatif, mais beaucoup moins bizarrement que quand t'as un chef sur le dos. Beaucoup moins. Et puis qu'est-ce que tu fais? Tu fais des ajustements, tu dis tiens là, il vaudrait mieux faire autrement. Et tu te demandes pas la perfection idéale, faut juste que ça soit pas, enfin, je vois pas comment on pourrait faire plus catastrophique que cette société qui repose sur l'idée de la nécessité du pouvoir. Mais on se demande pas que ce soit la perfection idéale comme je disais Reclus, ni l'ordre. C'est, il faut que, effectivement, qu'on arrive à faire que ça fonctionne le mieux possible. Et tu fais des essais et des erreurs, tu fais des ajustements. Mais c'est très important de pas avoir de chef. Les chefs sont des boulets. C'est dans le meilleur des cas, c'est des mouches du coche. Et on va citer même des exemples de, même si c'est à notre échelle à nous, qui montrent comment on peut s'organiser absolument sans chef et que bah déjà parce que tu te dis que tu délègues une bonne partie des choses à faire et puis parce que tu te mets pas la rate au courbouillon qu'il faut que ce soit parfait et que il faut que ça fonctionne mais que et que ce serait très difficile et que ça te prendra un temps fou donc sinon tu te lanceras même pas ou tu te retrouveras dans les pattes de quelqu'un qui va te dire laisse moi je saurais le faire et toi non.
Oui, ils sont pas seulement inutiles, mais carrément nuisibles. Et effectivement, ils disaient aussi, ils veulent aussi se donner l'image dans ce monde des ultra performants, mais parfait aussi. Donc, ils supportent aussi très mal la critique, par exemple. Et l'idée qu'on pourrait les remplacer ou qu'ils pourraient faire quelque chose qui serait critiquable, simplement, supportent pas ça. Il faut qu'ils se montrent parfaits et faire taire toutes les critiques, évidemment. C'est fait partie des justifications prétendument pour justifier leur autoritarisme, même si par ailleurs ils peuvent afficher des idées complètement à l'opposé.
Oui, tout à fait. Mais le truc, c'est que je voudrais citer comme ça des exemples. Alors bon, c'est à notre échelle à nous, mais de toute façon, je pense que dans une société libertaire, il faudrait vraiment que les structures essentielles soient à échelle humaine, qu'on puisse vraiment communiquer, parce que l'idée que tu vas gérer quelque chose où techniquement les gens peuvent pas se concerter, si tu veux, c'est quelque chose qui amène forcément à l'idée d'un grand coordonnateur, de grands, même plusieurs, de grands coordonnateurs qui, eux, vont savoir comment tout bien faire pour que ça soit parfait, effectivement. Mais le truc pour dire à quel point, en fait, le problème, c'est d'arriver à se débarrasser des chefs faillants. Je vais citer deux exemples. Une fois où on avait organisé avec dans un collectif comme ça une manifestation anti-religieuse, et une autre fois où on a organisé, le groupe d'Ivry a organisé une fête dans un squat où il est venu un millier de personnes environ, et avec l'idée que ça casse pas trois pattes à un canard de s'organiser, et que franchement c'est pas difficile, et que pour vous dire d'un point de vue pratique quoi comment ça fonctionne. Donc pour cette manif, a priori on bat un peu le rappel des gens du collectif, c'est qui est intéressé pour réfléchir à comment va se passer la manif. On se réunit dans un lieu, et puis on s'assoit autour d'une table, et tout d'un coup t'as un mec qui s'assoit en bout de table et puis qui commence à dire bon, maintenant je distribue la parole. Donc quelque part, et ça c'est un truc que j'ai vu très souvent dans des collectifs, par exemple même le truc de Bure Paris, ça avait été ça aussi, un mec s'installe comme ça et puis commence à distribuer la parole. Donc dans ta tête, comme en plus on a quand même eu une éducation comme sur l'idée que sans chef rien ne peut fonctionner, et qui est le chef, où est votre chef, quel est le chef, c'est qui coordonne, et si t'as quelqu'un qui coordonne, quelqu'un qui prend les décisions, c'est lui le chef techniquement. Et là, c'était absolument pas nécessaire. On pouvait on s'organise pour faire une manif sans qu'il y ait quelqu'un qui décide de distribuer la parole. Enfin, tu vois, admettons qu'il y en ait un qui prenne la parole, c'était pas... On dit, attends, on fait ça d'ailleurs dans les débats. Il y a quelqu'un qui a levé le doigt, si on l'a pas vu, il y a machin. Enfin, t'as vraiment pas besoin de structurer ça à fond, quoi. Mais à partir du moment où quelqu'un dit, il s'installe en bout de table, et dans toute son attitude, ça implique c'est moi qui organise cette réunion. Alors qu'il n'a jamais été question de ça, tu vois. Et alors là, il a commencé à donner des ordres à tout le monde. Et dire, toi tu vas faire ci, toi tu vas faire ça. Et avec un copain, on a décidé que c'était machin qui habite à l'autre bout de la France qui allait déposer la manif. Alors on est tous un tollé quand même. On dit, à quoi bon, pourquoi demander à quelqu'un qui habite loin, qui est même pas au courant d'ailleurs, d'aller déposer la manif à la préfecture. C'est bien. Enfin, bon, il a fallu lutter. Il propose quelqu'un d'autre qui était même pas là non plus. Enfin, on ne passait notre temps qu'à lutter contre des ordres quoi qu'il donnait. Et toi, tu vas aller chercher les affiches, et puis toi, tu vas chercher les drapeaux, et puis on va faire comme ci et comme ça. Derrière ton dos, il invite. Il avait, je crois, invité carrément Riposte laïque à venir dans la manif. On n'avait jamais décidé ça. Enfin, tu vois, tu te dis, en réalité, quelle a été l'utilité exactement, c'était pas seulement qu'il était inutile, il était carrément nuisible, quoi. Et en fait, c'est dur, parce que lutter contre quelqu'un comme ça, quand toi, on pourrait dire, vous aviez quel genre, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. Je veux dire, déjà, il faut identifier ce qui est en train de se passer. C'est même pour ça que je parle de ça maintenant. Si vous êtes dans un collectif et que vous voyez quelqu'un qui se comporte comme ça, qui commence à se poser comme celui qui va distribuer le, quand on lui a rien demandé, qui va distribuer la parole, qui va faire des propositions, retoquer les propositions. C'est, je pense au bouquin sur Notre-Dame-des-Landes, c'est exactement ce qui s'est passé finalement. Non ? Laurent, qu'est-ce que t'en penses ? Dans le livre sur Notre-Dame-des-Landes, le problème avec les gens qui ont vraiment fait une espèce de prise de pouvoir, alors que jusque-là, les assemblées se passaient de façon informelle, sans que ça pose un problème. Non ? Je sais pas, tu l'as pas ressenti comme ça dans l'histoire de Notre-Dame-des-Landes ?
Ben là, oui, c'est tout partout les mêmes procédés. De toute façon, on retrouve les mêmes choses, hein, les mêmes façons de faire. Et ça passe aussi par le renommage des choses, parce qu'une réunion devient un comité ou un groupe devient une commission, etc. Et ça prend, rien que de le nommer comme ça, ça prend tout de suite une autre allure. On a l'impression que c'est autre chose. Et puis, c'est vrai que la situation était aussi assez un peu différente quand même sur la ZAD, quoi, que dans une réunion, dans un groupe. Mais...
Oui, mais il y a eu quand même cette idée d'une prise de pouvoir avec l'idée que ce serait plus efficace, parce que c'est quand même ça le pitch.
Il y avait les notions d'urgence qui venaient. Alors, c'est urgent, il faut agir vite, et donc il vaut mieux faire quelque chose que... Même si c'est pas bien, il faut faire quelque chose. Il y a des notions d'efficacité.
Voilà, l'efficacité.
Les gens qui disaient oui, mais au moins ils sont efficaces. Et si les autres sont pas efficaces, pourquoi leur reprocher de faire des trucs? Bon, enfin. En considérant d'ailleurs qu'ils étaient plus efficaces, qui n'étaient pas. Enfin, je veux dire, ils s'étaient fait énormément de choses sur la ZAD avant que ces gens-là prennent le pouvoir, et largement aussi efficacement. Même d'ailleurs, quand on voit le résultat.
Oui, bien sûr. C'était surtout doué pour négocier avec la préfecture, mais bon. Mais c'était bien aussi, j'ai trouvé, qu'ils fassent croire qu'ils en faisaient plus que les autres. C'est-à-dire que cette idée de je travaille plus, on ne va pas vérifier. Par exemple, quand on pense que les patrons. Les politiciens travaillent beaucoup, je m'excuse, ils n'ont pas de pointeuse, et on n'a que leur bonne parole pour les croire. Mais on pourrait dire même qu'ils travailleraient plus, ça ne serait pas une raison pour faire les chefs, mais en plus, c'est pas vrai. Et ça, c'est important, parce que si jamais tu crois que c'est beaucoup de boulot de gérer et autogérer, eh ben, y a quelqu'un qui va dire, non mais tu te rends compte tout le boulot que ça va être, moi je suis prêt à le faire ce boulot. Ah ben, tu vas dire, ouais, c'est vrai que je ne me vois pas travailler jour et nuit... pour la gestion de ce collectif, quoi. Donc, du coup, c'est extrêmement important de faire croire que tu bosses beaucoup. Et de dire, ouais, il y en a marre, je bosse trop. Ça, t'es pas là pour voir si c'est vrai. Mais généralement, si tu réfléchis une seconde, tu dis, mais en réalité, ça consiste en quoi? Tu dis, les politiciens, mais comme on a dit tout à l'heure, ils sont entourés par... ils se font aider. Si tu veux, c'est évident. Et des fois, tu peux avoir une impression comme ça parce que, en réalité, des fois, tu peux avoir des résultats en ayant des résultats qui peuvent sembler spectaculaires avec un boulot très, très modeste, en réalité, avec un truc très peu chronophage. Je pense à un truc qu'on a fait il y a déjà pas mal de temps, il y a une vingtaine d'années. C'était une fête de Radio Libertaire qui était dans un squat, le Samplon. Donc le groupe d'Ivry avait organisé ça, à l'époque on était un peu plus nombreux, t'étais pas là, je crois que c'est la première fois que tu es venu d'ailleurs, que t'as été en contact avec quelque chose fait par le groupe d'Ivry, c'était cette fête du Samplon. Il y avait beaucoup de monde, il y avait un millier de personnes, tu vois, et puis ma foi, tout s'était à peu près bien passé, il y a eu un ou deux couacs, il y a eu des couacs, mais à la limite... si on avait dû refaire une fête par la suite, on aurait su quoi pas faire, quoi, tu vois. Mais enfin, globalement, ça avait très bien marché. Il n'y avait pas eu de couac majeur. Et pourtant, je le sais parce que c'était moi qui étais le plus sur le terrain pour le contact avec les squatteurs et tout pour organiser le truc. Et la vérité, c'est que j'y allais souvent parce que à l'époque, mes enfants étaient en bas âge et adoraient aller jouer dans ce squat. Donc j'y allais pour trois fois rien, quoi. Mais en fait, ça consistait en quoi? Tu prends contact avec la salle. C'est pareil si tu as une salle d'ailleurs que tu payes, hein. Franchement, ça prend pas longtemps à faire. Et puis ils avaient dit ok. Et puis je leur avais dit, est-ce que vous voudriez faire des choses de votre côté à cette occasion. Est-ce que donc ils avaient dit ouais, on ferait bien une pièce de théâtre le soir, ok. Et puis j'avais dit ben voilà, comme en plus moi j'ai des enfants, mais je sais qu'il y a des gens ils peuvent pas aller dans des fêtes, parce que faut le dire en plus, les fêtes ça a toujours du succès, c'est vrai. Hein, les gens sont beaucoup plus que quand tu fais un débat sur quelque thème que ce soit, une fête, les gens, même les gens du coin, ils sont partants. Et là en plus, comme il y avait des trucs pour les gosses, ils disent que il y en a parmi vous qui pourraient faire des activités pour les enfants. Et il y en a qui ont dit bah ouais, nous on fait du théâtre, on pourrait leur faire des espèces de scénettes avec de l'improvisation et tout, cool et tout. Donc il y a des gens qui se sont dit tiens, comme ça les enfants seront occupés, puis nous on pourra un peu s'amuser aussi, s'occuper. Et Laurence était occupée de contacter les artistes, les chanteurs. Il y avait un chœur, il y avait un où les gens allaient chanter avec donc il fallait faire imprimer un truc, mais c'est eux qui s'en sont occupés, le chœur en question de chansons politiques. Et puis il y avait un mec qui chantait du Brassens de mémoire. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre que tu avais contacté aussi?
Il y avait Fred Alpi qui avait chanté avec son guitariste, et puis il y avait donc ce copain qui interprétait Brassens et d'autres aussi, voilà. qui étaient là, quoi.
Voilà, donc il y avait, bon, pour la bouffe, ben on avait demandé, c'est qui veut bien s'occuper de la bouffe. Il y avait des copains de l'émission africaine Kumbi qui était ok. Et puis il y avait Nestor de l'émission Tribunal Latino-Americana, qui effectivement était venu un peu en retard, mais enfin c'était très bon. Et même s'il y avait un petit côté comme ça un peu approximatif, c'était pas très grave. Et puis sinon c'est simple, on avait simplement demandé aux émissions s'ils étaient ok pour chacun faire un stand en l'animant comme il voudrait. Par exemple, je me souviens que l'émission féministe, il y en avait qu'une à l'époque, Femme Libre, avait fait une sorte de coin cosy avec des canapés pour pouvoir discuter de façon plus personnelle avec les gens, avec les femmes évidemment. Et donc il y a eu des trucs qu'on avait dû ajuster par rapport à la bouffe, parce qu'il y avait plus de gens qu'on avait imaginé. On avait été en vitesse, on était en vitesse faire des courses au supermarché du coin. Ça s'était bien passé, et on n'avait pas, il n'y avait pas quelqu'un qui avait pris les décisions pour tout le monde. Il y avait un truc sur les logiciels libres. C'est évident que c'est pas nous qui connaissons que Pouic qui aurions animé ça. Donc c'était deux copains du groupe pour qui c'était très important, qui s'en étaient occupés. Il y avait quelqu'un de la radio qui s'était quand même venu pour par rapport à ce qu'étaient les branchements, voir avec les squatteurs. C'était un mec qui s'appelait Jean-Louis, je me rappelle. C'était le seul d'ailleurs du secrétariat qui était venu. Hein. Et il était venu. Il avait contacté les squatteurs pour voir comment faire pour brancher les ordinateurs pour que les gens puissent faire un atelier logiciel libre. Et puis il y avait aussi une retransmission. Et alors ça, on peut dire que c'était pas la grosse réussite, parce que la pauvre copine qui s'était retrouvée à ce poste-là, soi-disant elle aurait pas dû être toute seule, mais en fait les copains qui devaient l'aider, ils étaient partis tous, comme c'était une fête, ça attire beaucoup les gens, ils étaient allés faire la fête, quoi, puis elle était toute seule. Alors honnêtement, ça aurait été à refaire, j'aurais dit à quoi bon. Franchement, être dans une fête, c'est cool. Et je comprends qu'elle était un peu en panne, parce qu'il n'y avait pas grand chose. Je veux dire, même ça a été pareil quand elle a dû faire elle-même un festival à la clé, et où elle était censée faire tout toute seule, et elle était effectivement un peu effrayée parce qu'elle avait jamais fait ça. Mais heureusement, le même Jean-Louis d'ailleurs l'avait aidée, et puis elle avait demandé, du coup elle avait compris qu'elle n'avait qu'à demander encore une fois aux animateurs qui avaient donné des conseils pour faire une expo, donc quand on fait les choses collectivement, hein, ben c'est mieux, hein, c'est tout. Et mais disons que le truc, c'est que je trouvais pas que c'était très intéressant, si tu veux, de faire une retransmission sur une fête. C'est sympa, mais du point de vue que ce soit radiophonique, du point de vue de l'intérêt de la chose, même pour le fun. Franchement, ça aurait été à refaire. J'aurais dit, à quoi bon que tu bloques une personne comme ça pour qu'elle interroge des gens qui n'ont pas forcément grand-chose à dire. Ah bah oui, je suis venu pour m'amuser, ou je suis venu pour telle émission. Qu'est-ce que vous êtes comme émission? Bon, ouais, d'accord, mais enfin, ils étaient quand même un peu occupés, les gens qui avaient une émission. Bah, parler avec les auditeurs, par exemple. Donc voilà. Enfin bref, pour tout dire, ça n'avait pas pris longtemps et c'était pas très compliqué à faire. Pourtant, alors moi, comme locomotive, je suis nulle. Mais là, ça n'avait pas été très difficile. Ça consiste à contacter des gens. Ça prend pas longtemps et c'est pas difficile. Voilà. Et donc, au bout du compte, s'il y avait des choses à refaire, ça aurait été principalement effectivement le peut-être par pour la bouffe avec Nestor qui avait vraiment les horaires latino-américains chevillés au corps et que c'est pas grave si tu bouffes à 3h de l'après-midi. On aurait pu peut-être voir ça différemment avec lui, mais enfin franchement c'était pas grave et il n'y a pas eu de problème. Il y a eu des problèmes d'autres fois où on a fait des débats avec les squatteurs. Tout comme des fois, quand on s'est organisé pour faire des trucs dans des squats, c'est parce que quand il y a une puissance invitante et que c'est pas toi, tu te retrouves un petit peu coincé, quoi. C'est comme ça que les squatteurs du Samplon nous avaient imposé une espèce de clown en première partie d'une projection de 1984 qui avait prétendu qu'il avait qu'un quart d'heure et en fait il y en avait pour une heure et en plus il était mauvais, on savait même pas ce qu'il faisait parce que les squatteurs avaient dit est-ce que vous pouvez vous le prendre en première partie, il dit que ça fait qu'un quart d'heure. On s'est senti un peu obligé de dire oui. Donc tu vois, c'est ce genre de détails quoi, si tu veux, où tu te dis bah la prochaine fois je me ferai pas avoir, je dirais non, on peut pas, j'étais un peu pris par surprise. Mais l'organisation c'est ça, c'est que tu te dis tu tires des leçons de l'expérience. En ce qui concerne tout ce qui peut être même autogestion de, je veux dire, avec des enjeux même de logement ou quand on était dans un squat, les principaux problèmes qu'on rencontrait étaient quand même liés au capitalisme. Bah, par exemple, dans un squat d'habitation, c'est que un squat d'habitation est pris d'assaut par énormément de gens à la rue. Et ça, à gérer, je m'excuse, il n'y a pas même un chef haillon qui peut gérer ça efficacement. C'est juste pas possible. Donc en résumé, soit c'est trop compliqué pour qui que ce soit, soit c'est pas compliqué du tout. Mais c'est important de faire croire que l'autogestion, ça demanderait un entraînement de malade, il faudrait s'entraîner pour l'autogestion. Non, il faut pas s'entraîner. Tu te dis se concerter les uns les autres, et qui c'est qui s'occupe de ci, qui c'est qui s'occupe de ça, voilà quoi, c'est vraiment pas compliqué. Non, je sais pas comment tu le sens, même quand on prend une initiative quelconque, quand on organise un débat, ben... C'est toi qui sais bien faire les affiches, c'est toi qui fais les affiches. Laurent aime pas trop coller les affiches, on va coller les affiches. C'est qui colle les affiches? Ben on va coller les affiches. On va pas demander à une copine ou à des copains qui habitent relativement loin, puis on n'a pas besoin d'être plus de deux de toute manière. Et puis pour l'annonce, ben on se dit tiens, qu'est-ce qu'on ferait bien comme sujet? Quelqu'un fait une suggestion, on dit ok ou on dit pas ok. On rédige l'annonce en fonction de ce qu'on a un peu déterminé en discutant entre nous. Et puis après, ben tu montres ce que t'as écrit. Des fois, il y en a qui disent ah non, tel point, tel passage, je suis pas d'accord. On rectifie en fonction d'eux. Et puis après, ben c'est toi qui envoie les annonces un peu partout, puisque c'est toi le cador en informatique. Voilà. Mais c'est pas toi qui décides, c'est pas toi qui gère la chose, quoi. Voilà.
Vous voulez peut-être écouter oui. Un titre
Je pense qu'un truc qui serait un peu en rapport, c'est la chanson des chanteurs-livreurs.
Bah, j'y pensais. Alors, on va écouter les chanteurs-livreurs.
Bon, c'est sur un peu... à quel point c'est indispensable d'avoir quelqu'un qui te commande, parce qu'ils travaillent beaucoup, tu comprends. Et puis, ils ont des compétences que tout le monde n'a pas.
Voilà, donc les chanteurs-livreurs, on va dire, un grand classique de Radio Libertaire, hein, qu'on entend souvent sur cette antenne. Et puis un groupe qu'on avait reçu déjà quelques fois, Publico aussi, pour un concert. Donc on écoute les chanteurs-livreurs, on se retrouve Oui, c'est un enregistrement public.
Public.
Oui, excusez-moi. Voilà, non, on va écouter Monsieur Gilou. Alors, c'est le titre de la chanson. Bon, là, je comprends pas.
Voilà, le cador.
C'est pas trop dur, le chef.
Voilà, donc. Voilà, on va écouter. Voilà, ok. Ouais, c'est bon. Voilà, les chanteurs livreurs en concert.
Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui boivent et qui reboivent et qui reboivent encore. Ils sortent dans la nuit, la tête sous les étoiles, et ils pleurent comme je pisse sur mon chef de service. Le mien s'appelait Monsieur Gilou.
Ah ouais!
Monsieur Gilou est chef du personnel, ou d'autres choses, on ne sait pas très bien. Il est doué d'un talent exceptionnel, paraître utile, lui qui ne sert à rien. Il est connu dans toute l'entreprise, montré du doigt, désigné du menton. Sur son passage, on chuchote, on méprise, mais il est le chouchou du grand patron. Article 1, le chef ne sert à rien. Nota bene, il faut l'éliminer. En poursuivant ainsi la réflexion, on finira par licencier le patron. A-t-on jamais prêté de l'importance autrement que pour s'en débarrasser, au grain de sable brisant la cadence, empêchant la machine d'avancer. De même au nom du fric, a-t-on jamais hésité une fois dégraissé, l'effectif pourtant insuffisant, mais Monsieur Gilou n'est pas là pour bosser. Article 1, le chef ne sert à rien. Nota bene, il faut l'éliminer. En poursuivant ainsi la réflexion, on finira par licencier le patron. Il ne supporte pas la concurrence et se targue d'être dans son domaine. Une épée, un phare, une référence de l'extrait pur de ressources humaines. S'en prenait-il, tout deviendrait bancal. L'édifice risquerait de chuter. Alors nos branlons, je fournis la cale et l'indispensable inutilité. Article 1, le chef ne sert à rien. Il faut l'éliminer. En poursuivant ainsi la réflexion, on finira par licencier le patron. Jean de labeur, salarié tachon, à qui l'on a martelé le principe, qui dit pour que le monde tourne rond, il faut suer à s'en sortir les clés. On pose avec ses tristes habitudes, Monsieur Gilou nous montre le chemin. Noyons l'exemple par la multitude, tous unis ne servons plus à rien. Article 1, nous ne servons à rien. Nota bene, allons nous promener, au fond des bois pendant notre excursion. Arrangeons-nous pour perdre le patron.
C'est bien joué.
Shannon. Que se passe-t-il ?
C'est un accident de chasse.
Ah, ça a du bon, la tradition.
J'entends déjà griller à l'utopie, des hordes hurlantes aboyer au chaos. On me prédit la jaune même vie, on me promet de me laisser KO. Qu'importe, d'autres viendront après moi, aussi je vous invite en attendant. Ensemble reprenons à pleine voix, 3, 4, Monsieur Gilou n'en a plus pour longtemps. Article 1, le chef ne sert à rien. Tout à béné, il faut l'éliminer.
Éliminer.
Quand le patron se sera fait la paix,
on ira s'occuper des actionnaires.
Monsieur Gilou, le chef du personnel, pour d'autres choses on ne sait pas très bien. Il est doué d'un talent exceptionnel, par être utile, lui qui ne sert à rien. À rien. À rien. À rien.
Voilà donc les chanteurs livreurs, Monsieur Gilou. Je note que lorsqu'au début il dit qu'il irait bien pisser sur son chef de service, ça ne provoque aucun mouvement d'indignation parmi le public qui est présent.
Dans ce studio non plus, ça n'a pas provoqué d'indignation.
Non, il faut le dire. Il faut le dire. Mais je trouve que cette chanson, en réalité, des fois, une chanson peut dire beaucoup de choses. Un certain nombre d'évidences, tout simplement.
Disons que je pense que ça résume bien les propos de ce matin. Hein, quoi, si tu veux, c'est vrai que, justement, c'est ce que je te disais, c'est pas du tout la question de la méritocratie, parce que dans le thème de la méritocratie, il y aurait l'idée de, parce que il y aurait des gens qui travailleraient plus, qui seraient plus dynamiques, qui seraient plus performants, plus efficaces, ça les autoriserait à avoir du pouvoir. Mais même ça, c'est du pipeau, c'est du flan. Parce que quelque part, c'est très important, si tu veux, pour que cette société perdure telle qu'elle est, avec les inégalités de classe au sens de distribution des tâches. Je pense encore une fois au Lascar du LEP électronique. Il faut que les gens destinés à être ouvriers croient qu'ils sont pas capables de faire mieux et qu'ils soient convaincus que les étudiants sont beaucoup plus intelligents qu'eux, que vu qu'ils ont des diplômes, c'est sûrement qu'ils sont plus intelligents et que ce serait pas à leur portée. Il faut qu'il y ait les deux en même temps, que tu survalorises les gens qui sont destinés à diriger ou qui dirigent, et que tu dévalorises dans le même temps ceux qui vont être écrasés. Tu vois, il faut faire les deux. Et dans cette dévalorisation, il y a cette idée de la fainéantise, de quelque part de la soumission volontaire, de la servitude volontaire. Tu te dis, après tout, j'ai déjà entendu de mes oreilles des gens dire, oui, mais ce que fait le patron, moi je saurais pas le faire, et puis c'est trop de responsabilité. Alors qu'il faut quand même le dire un petit peu crûment, que ce soit les politiciens ou des chefaillons de n'importe quel genre, des patrons, mais toutes sortes de chefaillons, en réalité, ils sont absolument pas indispensables et absolument pas performants. C'est pas vrai. Mais c'est très important de le faire croire. Parce que du coup, tu te dis, oh, si jamais tout va s'écrouler sans eux, on pourra même pas fonctionner du tout. Et puis, grâce à eux, ça va être, comme dirait Élisée Reclus, ça va être l'ordre, ça va être la perfection idéale. Ce que, pourtant, tout démontre bien que non seulement c'est une vue de l'esprit, quoi qu'il arrive, mais c'est particulièrement, enfin, là, c'est pas Élisée Reclus qui dit, il dit, ce sera, quand ça sera l'anarchie, mais que, avec des gens qui dirigent, avec des gens qui contrôlent, qui éduquent et tout ce que tu veux, c'est bien pire. C'est peut-être un peu foutraque avec des gens comme Matt Contour, mais par exemple, bah oui, d'ailleurs, je pense à ça parce que Matt Contour faisait partie de. J'ai moi-même fait partie d'une association qui s'appelait l'ANAL avec Matt Contour, Jean-Christophe Menu et puis Stanislas au tout début. Ça s'appelait l'ANAL à l'époque, l'association pour l'apologie du 9e art libre, et c'était un truc de BD qui à l'époque était qu'un fanzine. Mais à un moment donné, s'est créée une association avec tous les dessinateurs qui travaillaient pour un truc qui s'appelait l'association. Et ça s'est pas très bien passé. Et c'est raconté dans une BD qui s'appelle quoi ? Je sais pas, je pense pas que vous ayez ça à Publico, mais enfin ça peut toujours se commander. Elle est, c'est très intéressant parce que ça explique un truc qu'on a vu 10 000 fois, à savoir que quelqu'un que je nommerai pas dans l'association à un moment donné vu l'opportunité de, je pense, enfin c'est quand même assez clair qu'il y avait de l'argent dans cette association qui pouvait arriver et qui a eu envie de se l'accaparer, quoi. Donc qui tout d'un coup est sorti d'un chapeau en mode c'est moi le chef. Et il faut dire que l'ayant connu, oui, il était quand même assez chez Fayon quoi qu'il arrive, mais le truc c'est que il avait pas de contrairement à ce qu'on pourrait, enfin ce qu'il pouvait mettre en avant, oui mais c'est moi qui est plus tu vois qui est plus travaillé. Cette idée que celui qui va faire le chef travaille plus, c'est indispensable de le faire croire, je pense. Il travaille plus, en plus il a des responsabilités, alors qu'on voit bien que dès qu'on lui demande des comptes, regarde les politiciens, il y a un scandale, genre le sang contaminé. Responsable mais pas coupable, alors faudrait savoir. Ils sont bien payés et ils ont un poste de pouvoir parce qu'ils prennent des responsabilités. On l'entend celle-là aussi. Mais sauf que quand on leur demande des comptes, tout d'un coup, ils sont plus responsables. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Tout ça, c'est des prétextes. C'est juste des gens qui sont avides de pouvoir et de pognon ou des deux, et qui te font croire qu'ils sont indispensables. Non ?
Ben oui, dans une société prétendument basée sur l'égalité, mais complètement inégalitaire, ben ce genre de choses ça justifie cette inégalité. Mais à part le contrôle et le bénéfice personnel que vont retirer les autoritaires, c'est évident qu'à plusieurs, on a plus d'idées, plus de force, plus de moyens, et puis qu'en plus, les gens font des choses qui partent de leur volonté eux-mêmes, plutôt que d'être obligés à faire des choses qu'ils n'ont pas forcément envie. Donc, c'est à l'arrivée, c'est de toute façon évidemment plus efficace. Et puis, enfin, c'est le. De toute façon, c'est aussi ce qu'on souhaite, puisque si on ne veut pas de dirigeants, on ne veut pas non plus diriger. Et l'idée même d'être chef, en principe, ça dégoûte un anti-autoritaire. Et même si on te demanderait d'être chef, par exemple, de faire le chef, tu ne voudrais pas. Même si on dit, s'il te plaît, on a besoin de toi, tu refuses, quoi.
Ça te
dégoûterait de faire ça. Mais pour qu'il y ait un chef qui soit obéi, il faut aussi que des gens qui obéissent, justement.
Bah oui, mais en même temps, c'est pas pour dédouaner les gens qui sont soumis, mais tout de même, il y a toute une manipulation, si tu veux, en amont, d'une manière générale. Je vais prendre un autre exemple après, mais sur cette idée de la soumission, quand on te bourre le mou avec l'idée que de toute façon t'es une merde, que tu sauras pas, regarde, je pense aussi aux sans-papiers, le nombre de fois où on a entendu des sans-papiers dire que de toute façon ils étaient, enfin que les blancs savaient mieux, qu'ils sauraient pas. Que les blancs savaient bien, alors que les blancs en question, dans le collectif où on était, les envoyaient directement dans le mur. Mais vraiment. Mais on peut pas leur en vouloir dans la mesure où c'est quand même depuis des générations qu'on leur enfonçait dans la tête que les blancs sont vachement efficaces, performants, qu'ils savent mieux, et que eux, bah non, ils sont nuls. Bah le truc des Lascars, c'est que des gens qui sont d'origine prolo, et que à qui tu dis en classe que t'es nul, t'es une merde, tu sauras rien faire, que c'est ça aussi qui fait que tu te soumets. C'est que le fait de saper ta confiance en toi. Je vais prendre un autre exemple qui va, j'espère, aussi vous parler. C'est ce qui s'est passé par rapport aux femmes. C'est-à-dire que pendant, et même encore maintenant, ça existe encore, de bien enfoncer dans la tête des femmes, que j'avais lu un livre d'ailleurs qui était assez intéressant là-dessus, aux éditions des femmes, par rapport à Hollywood et la manipulation d'Hollywood par rapport aux femmes et à l'image des femmes. Donc c'est très important que les femmes pensent qu'il y a des trucs qu'elles sont pas capables de faire, qu'elles sont bonnes qu'à effectivement pondre et torcher les mômes et faire la vaisselle et faire des boulots d'intendance d'une manière générale, quoi. Et donc c'est très important de leur dire qu'elles sauront pas faire ci, qu'elles sauront pas faire ça, que s'il n'y a pas un mec pour les soutenir, elles vont être toutes perdues, que, enfin, tout ce qu'elles seront pas capables de faire, qu'elles seront nulles dans des tas de domaines. Et donc, dans ce livre, ils expliquaient que la guerre, les deux guerres, d'ailleurs, avaient foutu un grand coup, par rapport à cette image indispensable que les femmes devaient avoir d'elles-mêmes. Parce que, pendant que les hommes étaient partis, faire la chair à canon, eh bien, il fallait bien quand même que ça continue. Donc, par exemple, à Hollywood, on a commencé, il fallait que les femmes reprennent les boulots qui avaient été laissés par les hommes partis au casse-pipe. Et donc, par exemple, ils faisaient le modèle féminin, c'était Esther Williams, une championne de natation. Et il y avait des films comme Femmes en uniforme, où on voyait des femmes qui remplissaient les tâches qui étaient normalement faites par les hommes. C'était le cas aussi, apparemment, en Bretagne, lors de la guerre de 14, où on voyait beaucoup d'hommes faire la chair à canon. Donc, des tâches de ferme, par exemple, qui étaient normalement remplies par les hommes, ben, les femmes qui jusque-là faisaient pas ça, ben, il a fallu qu'elles le fassent, quoi. Il n'y a pas de mystère. Et gérer la ferme aussi, quoi. Tu vois, enfin, faire tous les boulots que soi-disant elles pouvaient pas faire. Donc, après, il n'y a pas beaucoup de mecs qui sont revenus, mais enfin, quand il y en a qui sont revenus, fallait qu'on les remette à leur place et puis fallait qu'elles fassent des gosses, quoi, de toute façon. Donc, du coup, y a eu toute une espèce de battage, comme quoi, bah, vite fait, il faut pondre, etc. Il faut s'occuper des gosses et il faut relaisser faut reprendre ta place, quoi. Sauf que les femmes qui avaient, quand tu leur dis, tu sauras pas alors qu'elles viennent de le faire, pendant des années, ça marche pas aussi bien. Forcément. Donc c'est ce qui avait foutu un grand coup quand même à cette propagande qui est indispensable pour que les femmes restent bien à leur place. Tu sauras pas faire mieux. Quelque part, il y a effectivement ça aussi par rapport à l'idée des noirs qui sauraient pas faire ce que font les blancs. C'est important de à la fois survaloriser et la force de travail prétendue et l'efficacité et les compétences intellectuelles et autres de intellectuelles principalement, donc pour la gestion, pour tout ça, des gens qui veulent garder leurs privilèges, tout simplement. Et donc je pense que ça passe par, quand tu vois les Lascars, ça passe par les c'est quelque chose qui est complémentaire, de dire à la fois de dévaloriser d'un côté et de survaloriser de l'autre. Je pense que c'est complémentaire. Donc bien sûr, les gens, on peut dire, ils se laissent faire, mais quand on t'a mis dans la tête que t'étais pas capable, bah oui, tu finis par le croire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non?
De toute façon, dans le cas des Lascars, qu'ils y croient ou qu'ils y croient pas, ça change rien. On leur laisse pas le choix. Ils ont le choix d'obéir, c'est tout. Ils n'ont pas d'autre. Ils n'en ont pas d'autre.
Enfin, au moins, eux s'élèvent contre cette idée que les étudiants vaudraient intellectuellement mieux qu'eux. Au moins, ils sont pas dupes de ça. C'est déjà ça. Après, qu'ils le subissent, c'est de toute façon, on va pas vouloir qu'ils se mettent à devenir des chefs à leur tour. Mais au moins que les gens arrêtent de croire que ceux qui ont des privilèges, que les étudiants, que les diplômés, que les chefaillons en tout genre valent mieux qu'eux intellectuellement même. Tu vois qu'ils font des choses qu'eux seraient pas capables de faire, qu'ils ont une super force de travail, qu'ils sont intellectuellement plus performants, que au moins t'arrêtes de te prendre pour une merde, même si on a tout fait pour que ce soit le cas.
C'est un conditionnement auquel, effectivement, sont soumis tous les individus.
Tous les individus, bah non, pas vraiment.
Enfin, tous, en tout cas, ceux qui subissent.
Oui, voilà.
Évidemment. Voilà, bah, c'est pas évident, évidemment, c'est pas évident de s'en défaire, parce que c'est comme une pression constante, c'est une idéologie qui est constamment... impulsée dans la société, dans les mentalités. Et bon nombre de personnes, je pense, effectivement, bah, se disent que il faut des responsables, il faut des chefs, il faut des gens qui savent, des gens qui encadrent, parce que nous, on saurait pas. Alors que la dynamique autogestionnaire est une dynamique qui est quasiment spontanée, qui est quasiment naturelle, et on l'a vu de plusieurs reprises dans l'histoire.
Pourquoi quasiment ?
enfin oui, qui est naturel, qui est voilà. Et on l'a vu dans l'histoire, dans des contextes qui n'étaient pas forcément révolutionnaires d'ailleurs, où il n'y avait pas forcément une remise en cause globale de la société qui était posée, mais tout simplement dans des moments de crise économique, de débandade, etc. Ben la capacité naturelle des gens à autogérer se manifeste sans qu'il l'ait apprise, sans qu'il soit encadré pour le faire, ce qui serait un contresens d'ailleurs. Donc à la petite ou à la grande échelle, on a vu cette manifestation-là de cette capacité autogestionnaire se mettre en place le plus naturellement du monde. Alors, il y a deux contextes possibles. Soit c'est un contexte révolutionnaire, soit c'est un contexte de crise dans la société où, tout simplement, c'est une question de survie. Mais dans les deux cas, la démonstration est là. La démonstration est faite.
On peut peut-être passer une petite...
On peut peut-être écouter Édouard Nenet, merci patron.
Oui, c'est pas mal.
Hein? Allez, on écoute Édouard Nenet.
C'est la chanson des Charlots ?
Ah non, c'est... est-ce que c'est une reprise des Charlots ou pas ?
Mmh. Oui. Oui.
Ah d'accord, c'est une reprise des Charlots. Donc on écoute Merci patron.
Nous courons vers la pointeuse, le temps d'enfiler nos bleus, et nous voilà tous heureux. Merci patron,
merci patron,
merci patron,
merci patron.
Quel plaisir de travailler pour vous.
On est heureux comme vous.
Merci patron,
merci patron,
merci patron,
merci patron. Merci patron.
De moi on vous prend. Nous avons tous un peu honte d'être aussi près de nos comptes. Tout le monde à la maison nous adore avec passion. Vous êtes notre bon ange et nous chantons vos louanges.
Merci patron,
merci patron,
merci patron,
merci patron. Quel plaisir de travailler pour vous.
On est heureux comme de vous.
Merci patron,
merci patron,
merci patron,
merci patron.
Ce jour, pour vous prouver notre amour, nous voulons tous vous offrir un peu de notre plaisir. Nous allons changer de rôle, nous irons limer la tôle, et nous nous occuperons de vos ennuis de patron.
Nous serons patrons,
nous serons patrons,
nous serons patrons,
nous serons patrons. À vous le plaisir de travailler pour nous,
nous serons heureux comme un fou.
Nous serons patrons,
nous serons patrons.
Radio Libertaire, c'est l'émission lundi matin, Édouard Nenet, donc reprise des Charlots. Merci, patron.
Moi, je voudrais rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, Nicolas, par rapport au fait que les Lascars, qu'ils soient dupes ou non du discours comme quoi les étudiants valent mieux que des lycéens du LEP et qu'il n'y a pas de raison qu'ils aillent à l'usine vu qu'ils ne sont pas plus cons que les autres, c'est que malgré tout, ils sont rattrapés par une réalité sociale qui ne dépend pas que de leur que de leur volonté finalement. Donc la question c'est bon, moi je maintiens quand même que c'est déjà ça au moins de pas se mettre soi-même plus bactère parce qu'on t'a tout le temps dit que t'étais une nullité, que tu saurais pas et que tu qui n'imagine pas que les étudiants valent mieux intellectuellement que des lycéens du LEP. Mais en même temps, comment on peut faire dans le... Même dans des structures militantes, par exemple, ou quoi, comment on peut faire en vrai pour s'en débarrasser des chefs? C'est effectivement, techniquement, très difficile, mais au moins que tu poses cette question-là. Au moins que tu te dises pas, bah oui, mais je peux pas faire autrement, ils travaillent plus, ils sont plus efficaces, ils sont plus performants. Non, enfin, mais une fois que tu as au moins fait ce chemin-là, ils sont pas faciles à déboulonner non plus. Les chefs.
Il faut déjà en avoir envie.
Oui, ben c'est bien ce que je dis. C'est au moins, t'as déjà, au moins en ce qui concerne les Lascars, on peut pas leur enlever qu'ils en ont envie. Mais à partir de là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire réellement pour ne pas pour échapper à l'usine, je veux dire, tu vois. Comme on avait dit quand on avait projeté par exemple la coupe à 10 francs. C'était des jeunes qui avaient le choix entre le chômage, donc la misère, et puis l'usine. Donc tu peux choisir, effectivement, t'as un choix. C'est comme on dit aussi, le chômage c'est la misère et le travail c'est l'exploitation. Mais c'est quand même pas terrible comme alternative. Donc dire que c'est complètement la faute des gens opprimés parce qu'ils devraient se bouger plus, j'irais pas jusque là quand même. On peut pas dire que forcément ils le veulent, mais qu'est-ce que tu peux faire, même quand tu veux pas? Dans la coupe, je vais pas spoiler, mais enfin, la solution choisie par le mec révolté dans la coupe à 10 francs, je la préconiserais quand même pas. Non, c'est vrai?
Non, bah, quand t'es contraint, c'est que tu peux rien faire.
Disons que... En effet, si jamais il y a des possibilités, par exemple, de faire de créer des structures... autogérer, c'est pas interdit par la loi non plus, mais en même temps bien sûr tu vas te retrouver quand
c'est
même
pas,
quoi qu'il arrive.
C'est pas la même chose d'être au boulot à l'usine ou d'être dans une association et subir un chef, c'est pas la même situation non plus. Non. Et t'as pas les mêmes marges de manœuvre, t'es pas contraint dans une association parce qu'il y a un mec qui s'assoit au bout de la table, t'es pas contraint de lui obéir. Si tu risques pas ton boulot ou pire, ou la prison ou je ne sais quoi, t'es pas obligé de lui obéir.
Non, mais n'empêche qu'il y a quand même des... Regarde, on avait quand même fait, je crois même deux fois, des débats autour d'un livre qui s'appelle « Te plains pas, c'est pas l'usine ».
Oui, des gens qui travaillaient dans une association.
Voilà, qui
donc c'était leur boulot, pas qu'ils sont dans une...
Ah oui, oui,
pas
bien
quelqu'un
sûr.
Qui organise
réunion. Bien sûr.
C'est pas la même situation.
Non, non, bien
évidemment,
sûr.
Quand c'est ton boulot en jeu, et ça change la donne, forcément.
Bien sûr. Non, mais c'est
et
un peu de ça que
je... C'était une association, mais les gens avaient réellement un patron. Mm. Et là, tu me parles aussi d'exemples où il n'y a pas de patron, officiellement. Enfin, il y a des gens qui jouent les chefs, mais un collectif quelconque, c'est pas un collectif avec patron.
Non, mais je veux dire que je pense à quelques exemples comme ça que j'ai vu de gens qui commettaient des abus de pouvoir dans des associations où si c'était pas un travail, il y avait un enjeu. Je pense par exemple à un squat féministe où une femme avait vraiment pris les manettes en main et faisait des deals avec la mairie derrière le dos des gens. Nous on a vu ça dans certains squats aussi. Et c'est compliqué quand même parce que comment est-ce qu'on lutte contre ce type d'abus de pouvoir? C'est pas évident quand même. Soit tu renonces et tu t'en vas, ce que font la plupart des gens d'ailleurs. Soit tu renonces complètement au projet collectif que tu avais. Ou alors comment on peut faire pour se débarrasser de gens comme ça? Je dis, bon, d'ailleurs, j'ai parlé de la BD sur ce qui s'est passé à l'association. Si j'ai bien suivi ce qu'ils disent dans la BD, ils ont recréé une autre association sans le chef Fayon. Et j'espère que ce coup-là, il n'y en a pas eu un autre qui s'est présenté pour essayer de diriger les autres, quoi. Mais je pense à d'autres exemples comme ça. La conquête du pain, par exemple. Je sais pas comment ça s'est conclu, mais enfin, on avait été très intéressés par cette lutte parce que dans un contexte où ils étaient présentés tellement comme des modèles d'autogestion que nos enfants au lycée autogéré, où il y avait aussi beaucoup à dire, d'ailleurs, du point de vue des abus de pouvoir, mais enfin, je veux dire, il les emmenait là pour leur montrer un exemple d'autogestion. Or, c'est les gens qui travaillaient là se sont mis en grève, mais ça a duré longtemps, un mois et demi ou deux mois, peut-être plus, non ? La grève des boulangers de la conquête du pain, bah parce qu'ils en pouvaient plus, qu'il y avait une espèce de gérante qui commettait vraiment des gros abus de pouvoir. Donc ils disaient quand ils ont fini par réussir à faire partir cette gérante, que ils seraient soucieux que ça se reproduise pas, que la même situation se reproduise pas. J'ai cru comprendre qu'ils avaient fermé de toute façon. Il faut quand même le dire, faire une bulle anticapitaliste dans une société capitaliste, c'est juste impossible. Et c'est peut-être pas du tout leur faute si ça s'est passé comme ça. Hein. Mais se débarrasser des chefs Fayon, c'est largement aussi difficile que de se débarrasser d'une invasion de punaises. Hein. C'est difficile. En plus, tu peux même pas les tuer. Donc, c'est vraiment compliqué, quoi. Ça a l'air facile, il n'y a qu'à pas lui obéir. Pour de vrai, c'est souvent t'es pris par surprise. Par exemple, pour l'histoire là, de l'organisation de la manif, ben, je vais vous dire les choses crûment, on s'y attendait pas. Le fait de devoir lutter comme ça contre quelqu'un, on s'y attendait pas. C'est un truc qui ça te prend un peu par surprise. Après, ces gens-là comptent. Enfin, ils ont qu'à compter sur l'indifférence et la lâcheté des gens. C'est quand même plus facile que de compter sur leur courage et leur lucidité. Donc déjà, t'as quand même un boulet au pied par rapport à eux, non ? C'est pas si facile quand même.
Moi, je dis pas que c'est facile, hein, mais je dis qu'au moins il faut le vouloir. Si tu le veux pas, ça sera carrément impossible. Clair. Et puis que t'es surpris une fois, évidemment, la première fois tu peux être surpris, mais la 15e fois, c'est plus la surprise.
Bah oui, en même temps, je pense que si tu veux, c'est effectivement là où je suis d'accord avec toi, c'est que je pense qu'au minimum il faut le vouloir. Mais pour le vouloir, moi je dis, il faut que les gens reprennent confiance en eux et qu'ils perdent confiance dans la prétendue force de travail, le dynamisme, le côté indispensable des chefs Fayon, quoi. Vraiment, c'est pas des chefs en général. Il faut
l'idée en général des grands hommes, éventuellement quelquefois des femmes, ou des grands penseurs, ou des grands artistes,
c'est vrai,
qui sont tous en général, et qui fait que même les gens comme les Lascars ou les ouvriers ou quoi sont carrément n'existent pas finalement presque. Mm-hmm. Hein, c'est Louis XIV qui a construit le château de Versailles.
Hein, voilà. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Non, c'est vrai. Et puis, effectivement, toutes les petites mains qu'il y aurait autour d'un chef Fayon, elles sont totalement invisibilisées. Ils vont mettre en avant que c'est eux qui ont fait. Par exemple, il va y avoir une fête, c'est eux qui l'ont fait. Tu vois, on va pas vous raconter d'histoire. La fête qu'on avait fait a eu du succès parce que les fêtes, déjà, c'est facile, ça a toujours du succès, une fête. Mais d'autre part, parce que on a demandé à des gens de nous aider, et puis c'est tout. Voilà, c'est pas compliqué de faire ça. Mais se débarrasser d'un chef, des fois, c'est vraiment difficile quand même. Mais moi, je crois quand même beaucoup, je parlais de l'exemple des femmes, mais franchement, c'est pas une blague. Les femmes qu'on a réussi à convaincre du fait qu'elles étaient moins bien que les hommes, qu'elles sauraient pas faire ce que font les hommes, qu'elles sauraient pas faire autre chose que de s'occuper des gosses, à la rigueur, l'intendance, d'être la secrétaire, l'infirmière, qu'elles sauraient pas, que les génies pouvaient être que des hommes, que c'était même pas la peine, quoi, qu'elles espèrent, enfin, parce qu'elles n'étaient pas capables de faire autre chose. Donc, c'était important de survaloriser les hommes et tout, d'un côté, et de les dévaloriser de l'autre côté. Et pour ce qui est, effectivement, des classes sociales, ben, les Lascars, on voit bien que ça, c'est pas évident. À part les Lascars, j'ai pas beaucoup d'exemples de gens de cette classe sociale-là qui vont pas, à force d'avoir été humiliés, finir par penser que oui, ils méritent pas mieux. Tu vois ce que je veux dire? À l'inverse, t'as les étudiants bêtes, mais quand on regarde franchement les trucs qu'ils disent, voilà, je vous parlais d'Élisée Reclus, mais enfin, mais j'y crois pas. J'ai lu des trucs qu'il a dit, mais c'est tout. Et pour dire des bêtises pareilles, soit des banalités dans le meilleur des cas, Bon, c'est vrai que c'est un mec qui a le sens du slogan. Franchement, dans la pub, il aurait fait merveille, mais à part ça, il casse vraiment pas trois pattes à un canard et il dit des bêtises. Je veux dire, c'est l'ordre moins le pouvoir ou il faut la perfection idéale. Mais c'est idiot! C'est incroyable, ça! Je veux dire, et les gens, ah, il est zéro, non, mais c'est pas croyable. Et je veux dire, et combien de fois j'ai vu des trucs comme ça? Des gens qui étaient à genoux devant, je pense à des philosophes, entre guillemets, comme Onfray. Je veux dire, tu te dis, mais outre le fait que, bien sûr, c'est devenu évident qu'il est pire que Réa, qu'il est plus que limite facho, mais il a jamais rien dit de fracassant, jamais. Pourquoi est-ce que tu crois que quand quelqu'un a des diplômes, il va être plus intelligent que les Lascars? Mais à force qu'on leur répète que eux sont plus intelligents, je me rappelle, c'était Quadrupanie qui avait dit « Mais chacun ses compétences, moi je suis plus compétent pour réfléchir et écrire. » Hein, t'étais là, donc t'étais moi qui l'a dit. Et puis il y en a d'autres, ils sont mieux pour la mécanique, enfin tout ce qui est manuel, ils sont mieux, tu vois. Quand on te dit toi ton, hein, tu restes là, hein. Surtout tu tonds le gazon. Et pendant ce temps-là, moi je réfléchis. Et puis alors dans le genre qui dit des bêtises grosses comme lui, il était bien aussi quand même Quadrupanie. Voilà. Mais lui était convaincu de sa propre intelligence. Et il balance que il va balancer, on va tout le temps balancer que quelqu'un qui a été mis en lycée technique, c'était qu'il pouvait pas faire autre chose parce qu'il était pas très performant que côté caboche. Et c'est incroyable quoi. Donc je pense que quand même minimum, que ce soit pour les femmes, les noirs, les fils de prolo, il faut déjà minimum reprendre confiance en soi. Se dire qu'est-ce que c'est cette histoire que je serais pas capable que et puis cette idée de ouais mais tu sais les étudiants ils ont travaillé ils ont fait des études c'est normal qu'au bout du compte ils soient mieux payés puis qu'ils aient un métier moins difficile et plus intéressant mais comment ça t'en aurais bien fait autant si t'avais pu c'est pas on te fait croire que ce serait toi tu saurais pas mais si tu saurais très bien. C'est pas, tu vois, mais c'est important de dévaloriser d'un côté et de survaloriser de l'autre. Voilà.
Et ça marche. Faut constater que ça marche. Tu sais, j'ai un exemple qui me vient en tête et que j'avais déjà exposé ici dans l'émission. C'est le stage de troisième. Tu sais, où les enfants peuvent choisir un lieu pour faire un stage. Et moi, ce que j'avais remarqué, donc, en banlieue, dans un milieu populaire, on va dire, c'est que la plupart des enfants avaient un imaginaire qui n'allait pas au-delà de leur quartier, si tu veux. Alors que dans d'autres milieux sociaux, ils ont un imaginaire qui les porte vers un avenir possible. Donc le conditionnement opère vraiment très 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 tôt. Après, effectivement, tu peux avoir un imaginaire qui te porte vers un avenir, vers un possible à réaliser, voire vers un possible révolutionnaire, utopiste, etc. Et continuer à être soumis à cette société-là parce que t'as pas le choix. Mais pour beaucoup de gens, et moi je l'ai vu chez les jeunes, ils sont même privés de cet imaginaire, sans parler d'un imaginaire révolutionnaire, mais simplement d'un imaginaire qui les ferait imaginer la possibilité de vivre autrement, d'échapper à leur destinée sociale, et ils en sont privés. J'étais vraiment c'était vraiment très très marquant de voir que ils envisageaient de faire leur stage de troisième à la supérette du coin, à la boulangerie du coin ou dans leur quartier, on va dire. Et je pense que déjà quand on commence à priver les gens de cet imaginaire-là, et on imagine bien, on n'imagine pas au contraire ni la bourgeoisie, ni le patronat, ni l'éducation nationale leur permettre d'avoir cet imaginaire-là, c'est tout un conditionnement dès le plus jeune âge. Moi je l'avais évoqué aussi ici, j'ai grandi dans un milieu familial où on me répétait sans arrêt, nous les petits, 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 nous les petits. où l'idée de c'est de se faire sa petite place dans la société, à sa place, sans déranger personne, sans parler trop fort, etc. C'est une réalité, je pense, qui écrase bon nombre d'individus dans cette société-là, et qui maintient l'ordre social, qui légitime l'ordre inégalitaire de cette société-là.
Juste un truc, c'est par rapport au fait de dire pas voir plus loin que son quartier. Personnellement, je ne suis pas du genre à voir tellement plus loin que mon quartier. Déjà, par exemple, ni le tourisme. Le tourisme n'a jamais été mon truc. La politique internationale, ça me dépasse d'autant plus que j'ai déjà du mal à comprendre ce qui se passe autour de moi. Donc, savoir ce qui se passe réellement en Amérique du Sud, quand ils font prétendument l'autogestion, encore moins, et parlons même pas de l'histoire. Donc, de ce point de vue-là, on pourrait dire que j'ai un imaginaire limité. Il y a juste que j'avais vraiment... Premièrement, j'avais horreur du travail, et le travail avait horreur de moi. Je veux dire, j'arrivais pas à m'insérer. Donc, c'est aussi pour ça, si tu veux. Mais... le truc qui a été difficile et qui est toujours pour moi, c'est d'arriver à prendre confiance en soi-même, que ce soit dans ton quartier. C'est pas si évident, hein. Je veux dire, même de te dire que tu vas être capable de faire... Il y a des gens dans leur quartier, ils se voient bien être le patron de l'usine du village, quand on suit ce que je parlais de la coupe à 10 francs. Je sais pas si l'imaginaire du patron allait plus loin que son usine et son village, mais c'était lui le patron. Tu vois ce que je veux dire? Et les jeunes, de toute façon, comme dit Nicolas, réellement, dans la coupe à 10 francs, ils n'ont pas tellement d'autres perspectives. Il faudrait qu'en effet, ils quittent peut-être le village, mais ce n'est pas évident non plus. Et encore moins quand on t'a toujours dit que de toute façon, tu ne saurais pas, tu es une merde. Tu vois, on voit ça dans différents films, comme dans Passe ton bac d'abord. Ils ont envie d'aller voir plus loin, mais qu'est-ce qui va se passer? On voit des jeunes qui, à la fin de Passe ton bac d'abord, de Maurice Pialat, qu'on avait projeté deux fois aussi, ben, on voit des jeunes fils de mineurs, ils veulent échapper à leur destinée, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils vont aller à Paris, donc tu vois, ils voient plus loin que leur quartier, mais qu'est-ce qu'ils vont faire à Paris de plus que ce qu'ils faisaient, dans leur village, dans leur petite ville du Nord? C'est pas... Tu vois, je pense que c'est pas un problème tellement géographique. Je veux dire, c'est... Même en se déplaçant, bah, tu peux pas dire le contraire. Les sans-papiers qu'on a connus, ils voient plus loin que leur village, puisqu'ils viennent carrément dans un autre pays. Mais qu'est-ce qui les attend? Je veux dire, pour de vrai, t'es vraiment écrasé réellement. Le seul truc que, malgré tout, tu te dis qu'au minimum... Il faut que tu arrives à reprendre confiance en toi et à te dire c'est pas vrai que tu le mérites, c'est pas vrai que tu vaux pas mieux. Tu vois, donc c'est pas suffisant, mais au moins que tu aies pas de toi cette image de je vaux pas mieux, je pourrais pas faire mieux, je suis une merde. Tu vois, c'est parce que ça vraiment, si t'as pas au minimum ça, on sait pas ce que sont devenus les lascars du LEP électronique, on le sait pas, mais le fait est que c'est des gens qui ont démontré qu'ils étaient plus intelligents que les étudiants, que ce qu'ils ont dit, on s'en sert encore aujourd'hui, c'était des ados. Des ados, gosses de prolo, mis dans un LEP, écrasés. Je me rappelle d'avoir vu une directrice quand j'étais au collège qui allait voir les SECPA, enfin l'équivalent des SECPA pour l'époque, et puis qui leur disait « Maintenant, vous la ramenez pas, vos classes, on les appelle des classes poubelles. On vous a mis à la poubelle, alors vous la ramenez pas. » Bah, on les voyait qui baissaient la tête. « Ouais, on nous a mis à la poubelle. » Tu te rends compte quand même? Quand minimum, faut quand même que tu te dises « Ce qui m'arrive est pas juste. » Au minimum. Mais c'est pas ta faute. Si t'es, je veux dire, la servitude volontaire, ça vient aussi quand même du fait qu'on te... Et même à toutes les échelles. Tu dis les femmes qui supportent un mari violent. Pourquoi est-ce qu'elles supportent un mari violent? C'est pas qu'elles sont maso. C'est que j'ai eu un mec violent et je sais que mon idée, c'était que je valais pas mieux. Donc pour me sortir de là, il fallait au minimum que je reprenne confiance en moi. Donc c'est un petit peu le sens aussi de ce que je dis ce matin. Non, ils font pas les chez Fayon en tout genre. Non, ils travaillent pas tant que ça. Non, ils sont pas plus efficaces. Non, ils sont pas plus intelligents. Ils sont pas plus performants, pas plus intelligents et pas plus et ils travaillent pas plus que toi non plus. Voilà, donc c'est important. Et puis si, bien sûr que tu vaux mieux que d'être écrasé. personne ne mérite d'être écrasé. Et il faut que tu relèves la tête, que tu vois, que tu te rendes compte qu'on t'a bourré le mou, on t'a fait croire. On t'a fait croire que ceux qui t'écrasent étaient travailleurs, étaient performants. On t'a fait croire que toi, tu travaillais moins, ce qui est pas vrai du tout. Que t'aurais pas su, que tu saurais pas faire ce qu'ils ont fait, que tu saurais pas, que t'es moins intelligent que les diplômés. Et, bah non. Et puis, il faudrait que tu cherches une espèce de maître à penser. Non, t'en as pas besoin. En ayant des échanges avec des gens, c'est, enfin moi personnellement, c'est un peu, je dis pas que j'ai rien trouvé dans des bouquins, c'est pas le cas, mais l'un dans l'autre, il y a beaucoup moins de gens qui m'ont apporté quelque chose dans les lectures que des gens avec qui j'ai eu des échanges, en particulier quand on fait des débats par exemple. Et à l'époque où on prenait des conférenciers, ben, en réalité, ça me faisait chier, je me rappelais de rien. Alors que maintenant, quand on fait des débats, je me rappelle d'à peu près tout ce qui s'est dit. Voilà. Donc, bon, Laurent ?
Ben, il est 13h. Voilà, donc Nicolas, un dernier mot.
Nicolas ? Non, c'est bon, c'est moi le mot de la fin.
Ben, on va écouter une dernière chanson. Ben, c'est Stupéflip. Voilà. On va écouter Abba la hiérarchie. Voilà. Et vous donnez rendez-vous donc la semaine prochaine. Oui.
Non, j'ai dit que j'aimais bien Stupéflip.
Ah oui, moi aussi j'adore Stupéflip. Je l'écoutais beaucoup à un moment donné. Rendez-vous la semaine prochaine. Ça continue sur Radio Libertaire. Au revoir.
Yeah.